France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 27 août. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le Brésil rejette l'aide du G7 pour lutter contre les feux qui ravagent la forêt amazonienne. Reportage dès le début du journal auprès des militaires brésiliens appelés en renfort pour contenir les flammes. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Le bilan du G7 à Biarritz, des avancées diplomatiques encore à concrétiser, notamment sur le nucléaire iranien, et la petite phrase d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, il faut privilégier la durée de cotisation. L'après-rentrée du ministre de l'Éducation nationale, alors que certains élèves sont déjà de retour dans les classes et ils sont contents. Peut-être bientôt un étiquetage pour évaluer la nocivité des produits ménagers et le mal-aimé Djokovic à l'US Open.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
L'université d'été du MEDEF ouvre demain et ils ont baptisé cette édition No Future. Est-ce à dire que le MEDEF est devenu punk? On posera la question au patron des patrons, Geoffroy Roux-de-Bézieux, avec nous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Le sondard est ouvert. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les incendies sont sous contrôle et nous n'avons pas besoin de votre aide. Le Brésil ce matin rejette sèchement l'aide d'urgence débloquée par le G7 à Biarritz. 20 millions de dollars destinés à combattre les milliers de feux qui ravagent l'Amazonie et qui continuent de progresser. Le chef de cabinet du président Bolsonaro conseille au président français de s'occuper de sa maison et de ses colonies et d'utiliser l'argent pour la reforestation de l'Europe. Un sentiment partagé par les militaires qui luttent contre les flammes. Reportage au cœur de la forêt amazonienne, à l'ouest du Brésil, dans la région de Porto Velho, des envoyés spéciaux de France Inter, Mathieu Mondoloni et Eric Audra pour les moyens techniques.
Képi rouge vissé sur la tête, le colonel Pérez passe ses hommes en revue. Des militaires de la force nationale venus épauler les pompiers brésiliens dans leur combat face au feu. Nous sommes une référence mondiale dans la lutte contre les incendies, nous explique-t-il. Quand on lui parle d'une aide internationale, il sourit, puis répond avec une politesse teintée de fierté. À ce stade, je crois que nous n'avons pas besoin d'aide extérieure. Nous avons à notre disposition 700 hommes de l'armée qui vont lutter contre les feux de forêt. Nous avons aussi le support des 700 pompiers de l'État du Rondônia et d'autres régions du Brésil nous ont offert de l'aide. Un point de vue partagé par beaucoup dans cette région qui a voté à 72% pour Jair Bolsonaro. Même les adversaires du président brésilien restent méfiants vis-à-vis de la communauté internationale. Elle ne doit pas se tromper de combat, explique Dani Clédé Aguiar. C'est le porte-parole de Greenpeace dans le pays.
Toute aide est la bienvenue. Mais le vrai combat se fait contre l'absence de politique environnementale du gouvernement. Il faut respecter la loi qui existe, ne pas l'affaiblir et sensibiliser le président Bolsonaro pour qu'il renonce à sa politique de démantèlement de l'environnement. Ce serait une énorme avancée.
Et ça permettrait, ajoute le porte-parole de Greenpeace, d'éviter de nouveaux feux plutôt que de les combattre. À Porto Velho, Eric Audra, Mathieu Mondoloni, France Inter.
Et le président brésilien pourrait se rendre en Amazonie dans le courant de la semaine. Le G7 s'est donc achevé hier à Biarritz par une conférence de presse commune. Emmanuel Macron, Donald Trump pour acter les avancées de ce sommet. Un compromis trouvé sur la taxation des géants du numérique. Une volonté affichée de renouer les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et un apaisement des tensions entre Washington et Téhéran. Une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani semble possible. Une avancée dont s'est félicité Emmanuel Macron hier lors de son interview dans le 20h de France 2. Mais pour l'heure, Franck Matvon, rien de concret.
L'Élysée a longtemps refusé le rôle, mais cette fois Emmanuel Macron l'a dit, la France tente bien une médiation sur l'Iran. Impossible de se cacher, le président français a multiplié les contacts. Rencontre vendredi à Paris avec le ministre iranien Zarif, de retour dimanche à Biarritz. Déjeuner en tête-à-tête avec Donald Trump samedi et, selon Emmanuel Macron sur France 2, des résultats.
1. On a baissé la pression. 2. Chacun des présidents a dit « je suis prêt à rencontrer l'autre sous certaines conditions ». Et puis 3. On a eu des discussions très techniques. Et on voit quelles sont les conditions qui pourraient être remplies dans les prochaines semaines. Donc maintenant, il va y avoir un travail très technique, très diplomatique. C'est fragile, donc il faut qu'on fasse très attention.
Et Emmanuel Macron l'a reconnu aux côtés de Donald Trump face à la presse. La France espère bien continuer à jouer un rôle dans cette crise. Mais beaucoup de chemin reste à parcourir. On ne veut pas d'armes nucléaires, a dit Donald Trump. Pas de missiles balistiques et un accord sur une plus longue période. C'est beaucoup pour l'Iran qui se montre peu ouvert à des concessions. La France tente actuellement de négocier un allègement des sanctions en échange de nouveaux engagements iraniens. Mais Téhéran menace toujours de violer en septembre d'autres dispositions de l'accord.
Emmanuel Macron a également évoqué hier soir des sujets franco-français et en premier lieu la réforme des retraites qui doit privilégier selon lui un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ, ce qui remet en question l'âge pivot à 64 ans préconisé dans le rapport de Levoy. Nouvelle donne donc pour les discussions avec les partenaires sociaux qui doivent reprendre la semaine prochaine à Matignon. Autre sujet évoqué, le nécessaire changement dans la manière d'assurer la sécurité pour éviter les scènes de violence extrêmes lors des manifestations des Gilets jaunes. Tout en louant le travail remarquable des forces de l'ordre, Emmanuel Macron a reconnu des erreurs avec des gens qui n'étaient pas violents. Un constat loin d'être partagé par le syndicat de policiers Alliance, dont Olivier Ourcault est le secrétaire général adjoint.
Pour moi, les policiers n'ont pas commis d'erreur. Les policiers ont agi dans le cadre déontologique parce qu'il fallait faire cesser des infractions, parce qu'ils étaient victimes aussi, parce qu'on l'a vu à maintes reprises, des policiers ont été caillassés, insultés, pris à partie régulièrement. Certes, il y a des blessés et des victimes du côté des manifestants, souvent des dommages collatéraux qui sont vraiment pas faits exprès. Les collègues ne font pas exprès de lancer des grenades parce que eux se désengagent justement pour éviter des drames. Alors changer de méthode, ça c'est le président qui le dit, mais aujourd'hui changer de méthode, est-ce qu'il va falloir laisser faire ? Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Alors, si on nous dit aujourd'hui la police doit et les gendarmes doivent arrêter d'aller chercher tous les fauteurs de troubles qui sont là uniquement pour casser du flic, c'est pas les choses que nous attendons et c'est surtout pas les citoyens qui attendent ça de leur police.
Olivier Ourcault, joint par Thibault Lefèvre. Circulation différenciée toujours en place aujourd'hui à Paris et Lille pour lutter contre la pollution. Vignette critère 0, 1 et 2 dans la capitale et en petite couronne. Vignette 3 également dans la métropole lilloise. En bref encore, un délai supplémentaire accordé aux banques en France, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni pour renforcer la sécurité lors des transactions en ligne. En clair, les SMS d'authentification qui devaient disparaître mi-septembre seront encore en vigueur jusqu'en 2022.
Il est 7h07, Agnès, c'est l'heure de la rentrée pour Jean-Michel Blanquer et un certain nombre d'élèves dans l'Hexagone.
Conférence de presse ce matin du ministre de l'Éducation nationale sur fond de grogne des enseignants du secondaire avec l'entrée en vigueur de la réforme du bac, la fin des filières et les spécialités pour les élèves qui entrent en première cette année. Eux sont encore loin de ces préoccupations. Les 209 enfants de l'école privée Saint-Apollinaire à Valence ont fait leur rentrée hier. Une rentrée anticipée pour la cinquième année consécutive et parents et enfants sont plutôt content. Oui, reportage de Florence Baudet.
Ah oui, dès la sortie des classes, déjà les premiers échanges de cartes Pokémon.
Tu vois ? Attends, j'en ai une 100 et une 110.
Retrouver les copains, découvrir sa nouvelle maîtresse, c'est toujours le même plaisir pour les enfants et une semaine avant les autres, pourquoi pas ?
L'école, ça me manquait un petit peu vu qu'au bout d'un moment, quand t'es toujours en vacances, c'est un peu énervant, t'as plus rien à faire.
J'avais un peu hâte. Je voulais à la fois aller chez papy et à la fois aller à l'école. Mais je peux pas me séparer en deux.
L'école assume de raccourcir les vacances d'été jugées trop longues. Les parents, comme Frida, applaudissent.
Ah, moi, je suis ravie. Parce qu'effectivement, je trouve que les vacances d'été, c'est extrêmement long et puis qu'il faut les occuper pendant ce temps-là. Et on n'a pas toujours les moyens pour les occuper aussi longtemps. Donc, la rentrée anticipée comme ça, moi, personnellement, ça me rend bien service.
L'école a aussi mis en place des horaires un peu différents et la directrice Sophie Pinet en est très satisfaite.
Alors on les a répartis différemment dans la journée, c'est 9h midi et 14h-16h45. On a essayé de les caler en fonction des pics de vigilance, c'est-à-dire les fins de matinée et plutôt les fins d'après-midi.
Mais ce que préfèrent les enfants, eh bien je vous le donne en mille, à l'unanimité, c'est la récré.
Rentrée également aujourd'hui pour le Premier ministre Édouard Philippe qui reçoit à Matignon les 19 organisations à l'initiative du pacte du pouvoir de vivre, dont le patron de la CFDT, Laurent Berger. Un pacte qui recense 66 propositions pour les plus défavorisés, comme l'interdiction de la mise en location des logements indignes et mal isolés et la revalorisation des minima sociaux. En Italie, ultime négociation pour tenter de former un nouveau gouvernement. Le président se donne 48 heures pour étudier le programme de coalition présenté par le Parti démocrate de centre-gauche et le mouvement anti-système 5 étoiles. En cas d'échec, les Italiens devront retourner aux urnes. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h09, Agnès. Après le Nutri-Score, le Ménage Score.
C'est en tout cas ce que souhaite le mensuel 60 millions de consommateurs pour mieux identifier les produits ménagers dangereux. Les gels et autres mousses pour nettoyer les salles de bain et les cuisines contiennent souvent, Philippe Lefèvre, des substances toxiques pour la santé et l'environnement.
Oui, car sur les 100 produits testés par le magazine, 59 sont déconseillés, voire fortement déconseillés par l'Institut National de la Consommation, qui évoque notamment des risques pour les yeux et les voies respiratoires à l'origine d'appels quotidiens dans les centres anti-poison. Et même si les industriels indiquent rarement la composition complète de leurs produits, les plus dangereux restent faciles à identifier, selon Benjamin Dourier de 60 millions.
Les produits qui prétendent être efficaces sans frotter. Pour être efficaces sans frotter, il y a forcément des ingrédients qui vont être extrêmement agressifs. Les produits désinfectants, bactéricides, ça peut poser problème parce qu'il peut y avoir des ingrédients qui vont favoriser la résistance bactérienne.
Et c'est pour faire toute la lumière sur ces produits que 60 millions de consommateurs proposent la création d'une étiquette ménage score de couleurs verte, orange et rouge. Verte, le produit ne pose aucun problème. Orange, son utilisation doit être limitée. Et rouge, là, le produit est fortement déconseillé. Et en attendant ce logo, certains consommateurs ont d'ores et déjà banni les produits toxiques de leur maison, comme Julie, et ils sont revenus à des produits anciens.
Le savon noir, c'est un excellent dégraissant. On l'utilise pour beaucoup, beaucoup de choses. On va pouvoir nettoyer des sols, nettoyer des fours.
Autre avantage, le prix. Le savon noir est en effet 5 fois moins cher que la plupart des nettoyants vendus en grande surface.
C'était le choc du premier tour de l'US Open dans le tableau féminin. Serena Williams n'a laissé aucune chance à la Russe Maria Sharapova, battue sèchement 6-1, 6-1. Les Françaises Kristina Mladenovic et Fiona Ferro ont également passé le premier tour et se retrouveront au second tour. Et puis chez les hommes, la belle histoire du jour, c'est celle de Grégoire Barrère, 109e mondial et issu des qualifications. Le Francilien, âgé de 25 ans, enregistre sa première victoire à l'US Open et entre pour la première fois dans le top 100 mondial. Et puis qualification sans surprise cette fois, du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui tente à New York de réaliser le petit chelem, c'est-à-dire remporter dans la même année 3 des 4 tournois majeurs. Novak Djokovic, un champion à l'ambition débordante mais qui souffre, Fabrice Abgral, de la concurrence des légendaires Roger Federer et Rafael Nadal.
Il fait déjà partie de la légende du tennis, mais ça ne lui suffit pas. Novak Djokovic veut devenir le plus grand joueur de tous les temps, mais pour l'être, le numéro 1 mondial sait qu'il doit s'emparer du record du nombre de titres du Grand Chelem, détenu par Roger Federer, vainqueur de 20 trophées majeurs. Djokovic, lui, en totalise 16.
It's still a very long way ahead of me.
Il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça me met aussi beaucoup de pression, parce que c'est clairement ce que je vise. J'ai 32 ans, mais je me sens toujours jeune dans mon corps et dans ma tête. Et je suis toujours très motivé pour continuer.
Novak Djokovic est un champion hors norme, mais il considère à tort ou à raison qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et ça, il en souffre. Novak Djokovic n'a pas non plus la même popularité que Roger Federer et Rafael Nadal. Et ça, il le regrette. Mais finalement, contre tout ça, il n'y a strictement rien à faire, estime Nicolas Mahut.
Il y a une certaine forme d'injustice par rapport à ce qu'il a déjà accompli. Si on devait classer aujourd'hui dans l'ordre, ce serait Federer, Nadal ou Nadal-Federer pour certains. Et Djokovic arriverait toujours en troisième position. Peut-être que s'il bat le record de Federer, on dira bah voilà, c'est Djokovic le plus grand. Et encore, je suis même pas sûr.
New York, Fabrice Abgral, France Inter.
Et puis l'OGC Nice passe sous pavillon britannique. Le club de foot azuréen devient la propriété du groupe Ineos, dirigé par Sir Jim Ratcliffe, première fortune du Royaume-Uni. Montant de la transaction, 100 millions d'euros, un record pour un club de foot français.
Merci Agnès Soubiran.